Stéphano de Guy, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ce lion a existé ou est une pure fiction ?
Alors, il y a la fameuse réponse de Boris Vian. Hein. Cette histoire est entièrement vraie puisque je l'ai
inventée
d'un bout à l'autre. Bon, cela étant, elle est exacte, cette histoire, dans le sens où elle s'inspire d'histoires d'animaux, de nombreuses histoires d'animaux. Et notamment, il y a un lion qui est à la source, qui ne portait pas ce nom-là, d'ailleurs, naturellement. Mais effectivement, c'est basé, comme on dit dans les films américains, basé sur une histoire vraie. Voilà. Maintenant, l'histoire n'était pas écrite, puisqu'en fait, il n'y a pas de documentation sur les animaux au XVIIIe siècle. Et donc là, c'est travailler aussi de l'imagination, de combler cette espèce de silence sur les bêtes. Voilà, ça m'intéressait, ça, au fond. Est-ce qu'on ne peut pas raconter l'histoire d'un animal en particulier au XVIIIe siècle ? Il y a ce moment particulier de l'histoire de France, qui est la Révolution française, à l'intérieur de laquelle on oublie toujours qu'il y a une histoire des institutions, des ménageries, des eaux. Il y a une mutation là, du rapport de l'homme et de l'animal. Comme chacun sait, on est aussi aujourd'hui dans une mutation du rapport à l'animal. Enfin, et moi, ça m'intéresse toujours de faire des généalogies, c'est-à-dire de me demander, mais au fond, cette histoire des rapports avec les animaux, quand est-ce que ça commence en tant qu'actualité, quoi ? Et ben, on peut dire la Révolution française, comme beaucoup de choses en France.
Pourquoi un lion ? Parce que le choix, enfin, vous auriez pu choisir d'autres animaux, notamment, on sait, enfin, cette histoire-là est beaucoup plus connue, mais elle est plus tardive, je crois. Il y a ce fameux voyage, cette arrivée d'une girafe en particulier.
Il y a la girafe de Mehmet Ali, enfin... Oui. Au Ferpin insultant, effectivement, et j'aurais pu prendre le rhinocéros Clara, qui est encore plus célèbre, une grande vedette du XVIe siècle. Pourquoi le lion ? Alors, moi, écoutez, depuis que j'ai fini ce roman et que je me prenais à Paris, je vois des lions partout. Il y en a un, Place de la République, gigantesque, devant lequel les gens se font photographier en bronze. Il y a celui d'Enfer Rochereau. C'est l'animal symbole par excellence, le lion, en fait. C'est l'animal... Et Disney aussi s'en est servi. C'est l'animal symbole, c'est l'animal... qu'on fait parler, c'est l'animal politique par excellence, bizarrement, chargé d'une très grande, évidemment, d'une très grande puissance symbolique.
La fontaine, bien sûr.
Et alors, il y a la fontaine. Comment ne pas citer la fontaine là-dessus ? Et tout ça, il y a une petite fable de La Fontaine méconnue dans laquelle La Fontaine dit à peu près, mais alors il faudrait raconter l'histoire des lions du point de vue des lions. Et si les chasseurs, si les rapports aux animaux n'étaient pas racontés par les chasseurs, mais par les animaux, ce serait une autre histoire. Et ben, moi j'essaie de raconter cette autre histoire-là.
Le titre « Histoire du lion Personne », alors évidemment il y a la référence directe à Homère et au nom de Personne, emprunté par Ulysse pour tromper le cyclope. Mais est-ce qu'on peut aussi le comprendre dans une autre acception, à savoir que le lion, autrement dit l'animal, est également une personne ?
Mais tout est là, en fait. Tout est là parce que personne veut dire à la fois quelqu'un et nul. Bon, ça, chacun sait ça. Mais alors l'animal, eh ben, on est toujours envoyé de l'un à l'autre. On sent que c'est une personne et pourtant c'est personne. Voilà. Quand on plonge ses yeux dans le regard d'un lion, dans le regard d'un animal, dans le regard d'un chat même, un ancien lion, on a ce rapport paradoxal de c'est et ce n'est pas. Tout est là au fond, hein, tout est là. Donc l'identité est incertaine. Et je trouvais ça vraiment intéressant.
Et que se passe-t-il dans la tête de ce lion ?
Moi, je pense que ce roman-là, il a été fait sur l'idée qu'on ne ferait pas parler le lion. Et j'essaierai de conserver à ce lion une certaine opacité et de demander au lecteur d'imaginer, c'est ça la vraie collaboration, c'est ça la vraie lecture du livre pour moi, c'est que les gens se demandent, mais qu'est-ce que... Et moi, j'essaie d'écrire le livre de telle sorte que les gens puissent comprendre ce que peut être, je ne dirais pas la pensée d'un lion, parce que c'est moi la pensée qui m'intéresse, que les affections, les sentiments, et j'espère que ce lion-là figure ça. Et alors là aussi, il est personne, et c'est une personne, et c'est à la personne qui lit, de se mettre, non pas dans la peau du lion, mais quelque part quand même si un petit peu, c'est-à-dire que la morale, c'est se mettre à la place d'eux. Et tant qu'on n'est pas dans ça, et en même temps, c'est impossible de se mettre à la place d'un lion. Et le livre est sur cette impossibilité et en même temps sur... Alors du coup, il y a une autre chose dans le roman qui moi, m'intéressait beaucoup, c'était, bon, si je ne peux pas parler du lion, si je ne peux pas montrer ce qu'il pense, je peux quand même montrer des rapports. Alors, le roman déplie tous les rapports de ce lion avec d'autres êtres, y compris un chien.
Hercule.
Donc, c'est l'histoire, c'est un roman d'amitié, Là aussi, y a le titre aussi un hommage à La Fontaine, Histoire des deux pigeons. Enfin, ce côté un petit peu fabuliste, avec l'idée d'une amitié entre une amitié. Alors là, que je n'ai pas inventé. Il y a eu un lion. Il y a eu l'amitié d'un lion et d'un chien au XVIIIe siècle au Jardin des Plantes. Ils étaient célèbres. Ils avaient même leur petite brochure qu'on vendait aux zoos, à la ménagerie. Et voilà, il y a une amitié entre un petit chien qui s'appelle Hercule et un lion qui s'appelle Personne. Voilà. Ça fait un peu western, mais après tout, il y a un grand western qui s'appelle Mon nom est Personne, donc oui. La boucle est bouclée.
Alors, est-ce que ça n'est pas aussi une parabole? Est-ce que dans ce lion, on ne peut pas y voir l'image du migrant perpétuel, du déplacé, du rejeté? Et en cela, cette histoire du XVIIIe siècle trouve une raison. Alors, je ne sais pas si c'est votre intention, mais en tout cas, le lecteur peut y trouver cette résonance avec notre monde d'aujourd'hui.
S'il le trouve,
entre les lignes d'une manière subtile.
Bien sûr, bien sûr. Je peux vous jurer que je n'ai pas pensé une seule seconde à ces aspects-là en écrivant le récit, parce qu'écrire un récit, c'est se plonger dans un monde, et je ne suis pas là encore pour essayer de me raccrocher à une supposée actualité. Cela étant, bien entendu, la façon dont sont traités les lions, la façon dont sont traités les animaux dans une société, et c'est un débat très actuel, reflète peu ou prou la façon dont les hommes sont traités dans la société. Et c'est l'argument majeur, je trouve, de la défense des animaux. C'est que défendant les animaux, on défend un certain statut du vivant et, par retour, un statut de l'homme. Alors si ce lion... C'est pas... Évidemment, les gens ne sont pas stupides. Ils savent bien qu'un lion, ce n'est pas une personne. Mais pour autant, la façon dont on traite le lion, personne, dit quelque chose sur la façon dont les individus sont traités dans une société donnée. Et de fait, il y a quelque chose de frappant dans le roman, je pense, que moi m'avait frappé, c'est les conditions de migration, des conditions de transfert de l'animal.
Qui rappelle celle des esclaves.
Et qui rappelle les navires de négriers, qui rappelle... Et
le
qui
bois pose, d'ébène.
C'est ça. Et moi, j'avais lu un livre sur Clara le rhinocéros extraordinaire où on expliquait les difficultés qu'il y a eu à amener des animaux. Et là aussi, ce moment-là, le moment où les animaux sauvages arrivent en Europe, c'est le moment où la mondialisation est suffisamment puissante, et les réseaux de communication, pour qu'on puisse... Voilà. Et on est là. On en est là. Sur les axes de communication, tout passe. Les maladies, les hommes, les animaux.
Puis je vous cite, page 107, « Ainsi personne devint-il en quelques jours l'idole païenne autour de laquelle se cristallisaient toutes les haines, tous les ressentiments rancis des habitants de la ville. »
Oui, parce qu'encore une fois, l'animal, c'est une projection. Voilà. C'est une projection de ce que les gens pensent, de ce que les gens aiment, détestent, etc. C'est quelque chose, c'est un miroir pour nous très, très, très puissant. Et en même temps, il y a cette espèce de résistance de l'animal. Je veux dire, l'animal est une énigme. Et il faut respecter cette énigme. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas parler ce lion.
Et puis alors, je crois qu'il faut insister là-dessus. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, c'est les différents niveaux de lecture, parce qu'on peut y trouver tout ce que l'on vient d'évoquer. C'est un livre qui, l'air de rien, nous amène à réfléchir, qui aborde, qui touche comme ça de grands thèmes. Et puis, on lit aussi, c'est d'abord et avant tout un conte avec de la poésie, le voyage, des aventures. On peut le lire à ce premier degré, en quelque sorte, aussi. Prendre beaucoup de plaisir.
Je vous remercie beaucoup. C'est le premier, c'est le dernier degré. C'est-à-dire que le mot histoire, en fait, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'une histoire, c'est étymologiquement une enquête. C'est aussi l'histoire avec un grand H, mais c'est aussi, évidemment, le plaisir de raconter. L'histoire d'une personne, alors, c'est un détail, mais Histoire d'une personne, c'est une allusion à des titres de romans picaresques du XVIIe siècle, comme on avait Histoire de Gil Blas de Santillane, etc. Donc, c'est une tradition picaresque de... Moi, je reste attaché, comme tout le monde, je pense, en tout cas les lecteurs, à ce plaisir de raconter une histoire, de raconter des histoires.
Il était une fois.
Hein. Exactement.
Elle commence comme ça, les histoires.
Il était une fois, voilà. Et une fois, c'est-à-dire là, c'est pas le Roi Lion, avec un article indéfini, au fond, ou défini, mais vague. C'est « il était une fois ». C'est-à-dire, ce lion n'a été qu'une fois, et qu'est-ce que je peux dire d'un lion qui a été une fois ce lion-là ?
Alors, s'ajoute aussi au plaisir de cette histoire, de la fiction, la rencontre avec des figures historiques, bon, certaines qui sont encore dans la mémoire collective, d'autres qu'on ne connaît pas forcément. Il y a en particulier ce Jean-Gabriel Pelletan. Donc, alors, je ne l'ai pas googlisé, hein, je ne suis pas allé vérifier, mais il existe évidemment, ce
Il est
Pelletan.
googlisable, pas facilement, mais on peut le
Directeur donc
googliser.
de la Compagnie royale du Sénégal.
C'est ça, oui, il y a ce personnage a existé, il a cette espèce d'entrepreneur. Là aussi, les parallèles sont frappants. Pelletan est un personnage anti-esclavagiste, très intéressant, mais qui est anti-esclavagiste parce qu'il est pro-capitaliste, c'est-à-dire qu'il veut libérer une certaine force de travail pour la servir d'une autre
Qui est un
manière
peu
que
l'un des paradoxes du
l'esclavagisme.
siècle des Lumières.
Exactement. Et on en est, bon, là encore. On est encore dans ce rapport-là. Et puis, voilà, moi, je trouve ces personnages-là assez passionnants. Mais même Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie, qui fait une apparition dans ce roman, que les gens ne connaissent pas, enfin, on le connaît, l'auteur de Paul et Virginie, hop, on appuie sur le buzzer et on gagne une encyclopédie. Mais c'est un auteur absolument passionnant qui a écrit des choses tout à fait merveilleuses. Et un naturaliste, c'est un siècle, ce siècle éminemment humaniste, c'est un siècle qui a regardé les animaux d'un œil nouveau. Donc voilà, la démonstration est faite que chaque fois, il n'y a pas à opposer l'humanisme dans ce sens-là et la sensibilité à la condition animale.
Autre personnage formidable, c'est Jean Dubois. Il a existé, ce Jean Dubois?
Ben, il existe puisque vous m'en parlez. Moi, celui-ci, vous auriez un peu plus de mal à le googliser. Mais là aussi, alors, dans l'invention romanesque, il y a toujours. Il faut inventer des choses. Mais vous savez que le mot inventer veut dire aussi trouver. Parfois, on les trouve dans les livres. Et puis, quand ils n'y sont pas et qu'ils devraient y être, eh ben, il faut faire un effort et les rajouter. J'ai fait ça constamment dans tous mes livres. Mais c'est tout un travail de documentation. Et puis
Oui,
ensuite, il faut inventer le personnage.
parce que ce Jean Dubois inventé par Stéphane Audguy, en même temps, il est lié à quelque chose là d'historique qui est la transformation de la ménagerie royale de Versailles qui devient le jardin des plantes et la ménagerie nationale. Et vous faites de Jean Dubois le premier directeur, hein, c'est ça, de cette ménagerie.
Le premier, oui, le premier intendant, parce que
Intendant, oui.
le
Donc
directeur,
il se
c'était
Geoffroy de Saint-Hilaire.
Étienne Geoffroy de
Oui.
Saint-Hilaire, tout à
Donc
fait.
celui qui est en contact direct avec les animaux, en tout cas, ce
Voilà,
Jean
et donc
Dubois.
il y a dans les mémorialistes, hein, moi j'en ai trouvé des personnages, les gardiens par exemple, c'est passionnant, hein, et j'ai voulu rendre hommage à ces personnages-là, effectivement, qui sont inventés. Vous aurez du mal à le trouver à la BnF, mais il est exact à défaut d'être vrai, j'espère.
Et avec cet épisode donc qui est vraiment passionnant, ce qui est à la base de cette ménagerie du Jardin des Plantes, ce sont les anciens montreurs d'animaux dans les villes et dans les foires. Et la
Ça aussi,
Révolution, là aussi
bien
on
sûr.
voit la prise de conscience du respect que l'on doit à l'animal et qui donne en quelque sorte naissance à cette ménagerie.
Exactement, il y a eu un décret interdisant de montrer des animaux sauvages à Paris. À ce moment-là, tous les montreurs sont allés porter leurs animaux au jardin des plantes, qui n'était pas un jardin des animaux.
C'était une
Et on
scène
a fait.
formidable, parce qu'il y a un aspect arche de Noé
Bien
dans
sûr, bien
ce
sûr. C'est
passage.
une histoire absolument étonnante. Et c'est encore la Révolution qui produit cet effet-là. Et alors, respect des animaux, vous avez raison, au prix de les enfermer. Parce qu'évidemment, il y a cette chose étonnante. Les enfermer, c'est les protéger. Hein, on sait bien que les lions qui vivent le plus longtemps ne vivent pas dans la savane. Les meilleures conditions de vie pour un animal, moins la liberté, c'est une chose terrible à laquelle on peut réfléchir longtemps, c'est la privation de liberté de la ménagerie.
Et c'est en partie ces anciens montreurs d'animaux qui deviennent les premiers gardiens de la ménagerie du Jardin des
Tout
Plantes.
à fait, tout à fait. Et ça, c'est des personnages extrêmement romanesque dans un genre romanesque qui n'est pas spectaculaire, mais que moi qui me trouve passionnant.
Et je voudrais qu'on revienne sur le contexte donc de la Révolution. Alors ce pauvre lion, il arrive, on pourrait penser qu'il va être accueilli comme une espèce de divinité, que tout le monde l'attend. Et puis patatras, c'est l'ironie de l'histoire et du destin. Il arrive dans un pays en plein
Il
bouleversement.
arrive trop jeune dans un monde trop vieux.
Ouais.
C'est-à-dire que effectivement, même la royauté s'est déjà détournée de l'idée que les animaux sont là pour montrer une puissance. Parce que, évidemment, la ménagerie classique, c'est Louis XIV exhibant comme ça sa puissance économique et symbolique en montrant des animaux rares. Et déjà c'est fini ça, cette affaire-là, quand le lion, quand on arrive à la Révolution. Mais on voit très très bien comment un lion, ce lion-là, peut être pris comme symbole par tout le monde. C'est-à-dire qu'il était le symbole de la royauté, et quand la Révolution intervient, évidemment, il manque de se faire lyncher. Il y a un cas très célèbre, et les gens peuvent le vérifier en allant au Jardin des Plantes, où il est momifié, si je peux dire, empaillé, il fallait chercher le mot. Il y a un rhinocéros qui a été tué d'un coup de lance de garde nationale au cours d'une séance, d'une espèce de lynchage d'animaux à Versailles, et qui dit combien il entre d'humain dans notre rapport aux animaux, mais aussi de sauvagerie, parce que s'il y a bien, si vous voulez, on dit toujours les lions sont féroces, ou je ne sais pas, c'est faux. Le seul animal vraiment féroce, c'est l'homme.
Merci Stéphane Audeguy.
Merci à vous.
Histoire du lion personne.